Je ne veux pas discuter de chiffres, on avance le chiffre de 100 millions, mais aurait-il que... Oui, on dit que lorsqu'on tue un homme et un noir, on en tue 9. Or, il y a eu 10 millions de noirs qui ont été enfin, mis de l'autre côté, et on est arrivé à ce chiffre-là. Il est possible, je ne veux pas discuter des chiffres, mais il y a un certain nombre de millions de noirs et des dizaines de millions qui sont morts dans cette opération qui a commencé dès... D'ailleurs, l'expansion de l'Espagne et du Portugal jusqu'à la suppression de la traite en 1800 et quelques.
Vous en rendez qui responsable?
Hein?
Vous en rendez qui responsable?
Un système qui s'est installé et particulièrement capitaliste.
Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de peuples qui participaient à la traite.
Ah oui, ben oui, je sais très bien.
Alors,
parlons-en, les Arabes, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Mais attention, hein. Alors là aussi, vous êtes très fort pour faire...
Qui vous?
C'est la presse, l'hémisphère nord.
Non,
attention. Il est fait confusion ici entre la traite et l'esclavage domestique. Tout le monde sait que l'esclavage domestique, c'est une autre affaire. Il existe depuis Rome, des blancs ont été esclaves, etc. L'esclavage domestique, c'est quelque chose. L'esclavage de la traite, c'est une autre histoire. C'est l'exploitation allant jusqu'à la mort d'un nombre extraordinaire de personnes qui ont servi en somme à créer la première accumulation du capitalisme. Alors, continuons ce que maintenant. Je voulais simplement préciser qu'il faut faire la différence entre l'esclavage domestique et l'esclavage de la traite. Et le livre a bon pour cela, n'est-ce pas? Alors, il y a ensuite la première révolution industrielle, la seconde. Et un système s'est mis en place. S'est mis en place et il a été conforté par des sciences, par une science, par une technologie, par... Donc, un système s'est mis en place, c'est ce système qui existe. Je dis dans notre parenthèse que ce système a eu raison de toutes les idéologies, le socialisme y compris. Ce système peut permettre qu'on le remette en cause partiellement. Et il a toujours sécrété des anticorps pour se survivre. Paul Ford qui a donné des actions à ses ouvriers, a eu la loi générale de Keynes. Bon, jusqu'à récemment, avant de partir, il proposait des actions aux ouvriers. Et déjà en Allemagne, c'est fait. On donne des actions aux ouvriers. Ce système fonctionne jusqu'à présent. Et ce système ne permet pas d'être remis en question. Voilà le problème. Ce système permet donc... Nous avons fait une brèche. Nous avons... récupérer notre indépendance.
Alors, quelle est l'alternative?
Alors, attention, il ne s'agit pas simplement de nous, parce que moi, je pense que ce système est mauvais, même pour vous. Je regrette, je pense. Ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est pas ce que je dis qu'il est fait, je le dis très sincèrement, ni les idéologies, ni les religions. C'est la biosphère. Ce système est prédateur, il est en train de polluer, mais avant la pollution de la nature, il y en a une autre qui s'installe là. Alors, les deux réagissent l'une sur l'autre comme un tropisme. Voilà la réalité. Ben, voilà ce qui se passe. Alors, l'islam, ce qui se passe d'abord, l'islam, puisque vous parlez de l'islam, c'est pas connu uniquement, c'est pas l'Iran. Comme on entend. L'islam, c'est un phénomène général, c'est un phénomène, c'est notre jeunesse qui éclate, qui remplit les mosquées à raison de 80% de ceux qui vont faire leur prière. Actuellement, en Algérie, les mosquées sont construites à un rythme inouï, mais elles sont pleines. Pas le vendredi, elles sont pleines tout le temps et elles sont remplies de jeunes qui n'ont pas 20 ans. Voilà la réalité.
L'islam est
en train d'exploser en Amérique. Il y a 3,5 millions de noirs, de black musulmans. Bon, il y a des problèmes, mais l'islam aussi, même, il est en train de bourgeonner au Japon, ailleurs en Asie, je ne parle pas de l'Indonésie, vous savez. Et même ici, même dans l'hémisphère nord, il est en train... d'acquérir un statut de religion à part entière.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le système d'oppression que, au fond, l'Occident capitaliste industriel met en place et vit même, est capable de vivre aux dépens du tiers-monde. Alors, là-dessus, nous
pouvons... Oui, mais les équipes, il permet, il ne permet que l'existence d'équipes dirigeantes qui permettent à ce système de fonctionner.
Là aussi, j'admets totalement. C'est pour ça qu'il y a une petite confusion, si vous voulez, où je me suis mal exprimé. Ma question, c'était ceci. Oui. Est-ce qu'en prison, je ne vous ai pas demandé si vous aviez sous-estimé ou bien réévalué le système d'oppression. J'imagine au contraire que vous l'avez surévalué.
Oui.
Mais est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il y avait d'autres méthodes que celles qui étaient pensées à l'époque où vous êtes entré en prison, je veux dire pendant votre séjour, pour lutter contre cette domination?
Ce qui est nouveau, qui est important, je pense, c'est que finalement, j'ai débouché sur une idée fondamentale, je pense, qui est renversée. C'est que les problèmes de développement sont avant tout des problèmes culturels. Que la dimension culturelle doit prévaloir dans toute approche de développement. Que les constituants culturels sont importants. Que d'ailleurs, toute production économique est une production culturelle. Quand nous, par exemple, nous prenons un nouvel développement occidental, nous ne prenons pas seulement les usines, une matière froide qu'on peut utiliser ici et là, sans inconvénient. On prend des catégories, bon, je ne vais pas discuter, sont très longues, mais surtout on prend une philosophie de la vie. Je vais vous citer un exemple, c'est que peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment. Actuellement en Algérie, mais partout ailleurs, vous avez des villages étrangers, de coopérants. Vous avez un village à Alger, je vais donner des détails, c'est un village américain. On a vu comment nous sommes, avec circuit de télévision intégrée. On ne voit pas la télévision, si on voit la télévision, donc, si encore il n'y avait que les Américains qui vivent là, ce serait pas tellement, dangereux, tellement... Mais c'est que les Arméniens viennent ici, tous les cadres qui ont été formés en Amérique, et ils vivent comme des Américains. Et ce sont autant, nous avons peut-être 200 villages comme ça, ou 100, qui vivent comme vraiment des micro-organismes étrangers, insérés dans un tissu, comme des corps étrangers, et qui le travaillent.
Concrètement, vous...
Dans la façon de vivre,
Concrètement, vous refusez le modèle de la technologie clé en main qui est exportée sur une terre étrangère, c'est ça?
Clé en main ou sans clé en main, je recule cette technologie parce qu'elle est porteuse d'une vision de la vie qui est étrangère. Alors j'ajouterai ceci. C'est cela que nous enseignons dans nos écoles. Vous comprenez? Parce que les écoles, les lycées, les universités ne sont pas des constructions extraordinaires. Elles sont conçues pour former des cadres, pour soutenir un modèle de développement. Vous comprenez très bien que ce qu'on enseigne, c'est lié directement à la forme de développement. Or, c'est ça que nous... Alors, ces écoles, eh bien, elles enseignent cette technologie qui est porteuse des catégories, notamment d'une vision de la vie qui nous est étrangère. Ce qui fait que nous portons le mal en nous-mêmes. Nous-mêmes, nous, Algériens, dès l'âge de 12 ans, nous les sustentons d'une matière qui de porteur de valeur, qui fait qu'à 20 ans, ils se sont étrangers chez eux. Et 16% s'en vont en Occident. Et 80% de ceux qui vont étudier à l'étranger. Voilà ce que je conteste.
Mais alors, Monsieur le Président, vous appelez en quelque sorte à réinventer le monde, mais il faut être un petit peu plus spécifique parce que de l'islam, il y a tout de même un certain nombre de pays et de régimes qui sont très différents les uns des autres qui s'en réclament. C'est quoi ce que vous...
Ce que je veux, c'est ceci. Je ne suis pas, personnellement, je ne crois plus en un monde d'une religion, d'une philosophie, je ne crois pas. Je crois en l'avenir d'un monde diversifié et qui s'accepte. Tel que je crois en la différence. D'abord avec les autres peuples, mais même à l'intérieur, nous avons des problèmes. De berbères chez nous, de kurdes, il faut accepter cette différence, il faut accepter l'autre. Je pense que l'avenir, c'est l'avenir d'un monde diversifié. En ce qui nous concerne, nous faisons partie d'une ère culturelle. C'est à partir d'une définition de cette structure que nous devons nous développer. Alors de là, résulte un certain nombre de choses. Par exemple, c'est le retour à l'agriculture, parce que notre agriculture est assassinée. Votre modèle de développement, l'une s'est retombée, c'est que l'agriculture est assassinée. Nous importons maintenant en Algérie 80% de nos céréales.
Visiblement, vous avez beaucoup d'idées pour réformer le système algérien. Alors, est-ce que la meilleure voie n'est pas essayer de revenir au pouvoir pour changer le système?
Non, le pouvoir ne m'intéresse pas. Écoutez, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. Le pouvoir, je l'ai exercé, des responsabilités, je l'ai exercé dans toute ma vie. Je souhaite agir, mais agir à une échelle plus large, non pas seulement en Algérie, mais pour des termes, j'étais termandiste, mais je suis devenu encore davantage.
Vous voulez être un ayatollah. Oui, c'est marqué dans Jeune Afrique, l'ayatollah Ben Bella, tenez, voilà.
Oui, je sais. Non, je ne suis pas un ayatollah, croyez-moi, je suis contre toute expression fasciste de l'islam, je sais que cela, je sais que c'est un danger qui nous guette, parce que cette jeunesse dont je parlais, qui refuse le modèle, eh bien, elle n'a pas d'alternative. On n'a pas encore créé chez nous d'alternative. Il faut le dire, il y a réellement une stérilité idéologique effarante. Beaucoup chez nous refusent le modèle, mais on n'offre rien. Personnellement, on ne peut pas me reprocher ça. Je ne suis pas un théoricien, je suis un homme d'action qui a réfléchi. J'ai proposé un certain nombre d'actions. J'ai proposé une certaine...
Et si la jeunesse algérienne venait vous chercher, est-ce que vous viendriez au pouvoir?
Non.
Le pouvoir national n'est pas dans vos objectifs. Moi, je suis très frappé par votre analyse sur le tiers-monde, la façon de vous appuyer sur l'islam, et vous dites tout d'un coup que l'islam, c'est quand même essentiellement son renouveau, le fait des jeunes. Et je me demande si vous n'aspirez pas un rôle de leader du tiers-monde. De leader.
Non, écoutez, ce n'est pas une fonction que je cherche.
Sans la chercher, vous la trouvez.
Croyez-moi, ce n'est pas une fonction officielle. Je cherche, je pense, pouvoir agir sur un clavier beaucoup plus large vis-à-vis des pays arabes, vis-à-vis du tiers-monde, vis-à-vis de ceux qui luttent. Voilà.
Comme il dit en Irak ou à Neuf-le-Château, il n'avait pas de fonction officielle. C'est quand même lui qui gouvernait le pays déjà.
Non, écoutez, moi je me méfie des parallèles, des analogies, etc. C'est Khomeini ou Khomeini, Ahmed Mbella c'est autre chose. Khomeini c'est un ayatollah. Moi je suis un militant révolutionnaire, je le reste.
De revoir Fidel Castro bientôt.
Pardon ?
Est-ce que vous avez l'intention de revoir Fidel Castro ?
Peut-être que vous le reverrez, mais je n'ai pas d'intention précise. Enfin, je n'ai pas d'intention très, très précise. Moi, je suis un militant maintenant, Fidel Castro est un chef d'État, vous savez, il est tenu à certaines obligations, etc.
J'étais un grand ami de Nasser.
Vous avez connu Sadat.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Sadat actuelle et des accords qu'on dévide?
Je pense que c'est une politique qui ne réussira pas. Voilà ce que je pense.
Qu'est-ce que vous pensiez de la France au moment de l'indépendance? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
Donc, je faisais un départ entre ce que la France, dans ses profondeurs, entre un régime ou des régimes qui avaient fait que finalement il y avait une occupation de la France et qui, en même temps que, enfin, lever cette hypothèque, je faisais parfaitement le départ entre ce qu'est la France dans ses profondeurs, ce qu'est la France dans son génie, dans ses valeurs réelles et, bon, un fait politique aussi tragique, aussi, etc. Et sincèrement, je voulais une coopération. D'ailleurs, De Gaulle, quand il a dit, il ne veut pas de mal, je vous assure qu'il ne faisait que traduire une réalité. Alors, je suis dans la même disposition, bien sûr. Bon, 15 années, 20 ans sont passés depuis, etc. Et puis, le blé, vous savez, les quelques nuages, etc., sont effacés maintenant, beaucoup plus. Je veux voir mal français. Comment accepter le français, Mbella, chef de Fellaga à l'époque? Et bien, je vous assure maintenant, quand je vais dans un quartier, les gens me saluent, ils viennent me dire bonjour, je suis.
Alors, vous voyez que le temps passe et pas bien.
Pardon?
Comment vous réagissez aux événements français d'aujourd'hui?
La nouvelle perspective? Ben, je réagis très bien, j'ai grand espoir, comme beaucoup de progressistes, je souhaiterais que ce soit un grand moment. Un moment réel, pas enfin, un moment d'enthousiasme, vous savez, comme au temps du Front Populaire. Et puis, je souhaite que ce grand moment se traduise par exemple par de nouveaux rapports avec le tiers-monde, par un engagement qui fasse sortir le dialogue nord-sud de ses ornières, pas juste à présent le dialogue nord-sud, vous savez ce que c'est. Je souhaite donc que cette nouvelle équipe fasse quelque chose.
Vous pensez que François Mitterrand constitue un espoir pour le tiers-monde?
Je pense que la nouvelle équipe, vous savez, François Mitterrand, Chissan, Dreyfus, constitue une chance, vraiment constitue une chance pour le tiers-monde. Encore que je ne m'illusionne pas, il y a une voix, c'est une voix la France. Il y a 8 autres voix qui ne sont pas du tout très favorables. Vous voyez les déclarations de l'administration Reagan concernant le sommet de Mexico. Alors, je pense que la France peut créer, son action peut créer une dynamique. Une dynamique qui finira par au moins peser en Europe, et je voudrais que cette Europe-là prenne conscience de même qu'elle constitue, elle, une alternative avant de constituer notre alternative. Quant au dialogue nord-sud, je pense personnellement qu'il devrait être sud-sud avant d'être nord-sud.
Je suppose qu'il y a un nombre considérable de gens qui veulent recueillir vos confidences, des livres, des radios, des télévisions, des journaux de presse écrite. Vous faites votre première grande déclaration publique sur le sol français. Est-ce que ce n'est pas une formidable satisfaction pour le cœur, une formidable revanche pour le public que vous avez été et que vous êtes?
Non, je n'ai pas de revanche à prendre ici. Je me sens très bien. Je ne veux pas dire des choses qui prêtent à équivoque. Ce n'est pas une revanche. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer ici. Et bien sûr, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur un terrain où vraiment je ne pensais pas que je serais si bien accueilli, où il y a si peu de temps j'étais considéré comme quelqu'un qui était plutôt préférable de ne pas avoir comme partenaire, enfin, avec lequel un commerce n'était pas très très sollicité. Et je suis très heureux d'être ici, de pouvoir faire ma déclaration politique ici en France.
Monsieur le Président, je vous remercie, et dans les remerciements, il y a tout particulièrement ceux d'une équipe qui a cherché à recueillir Le fond de votre pensée, l'observation de l'approfondissement de votre réflexion, ainsi que nous soulignions tout à l'heure, et puis le témoignage humain sur un homme qui, et je le dis devant les spectateurs français, quelles que soient les passions positives ou négatives que son action historique ou lui-même ait pu susciter, a gagné le mérite de l'exprimer sur la place publique parce que la démocratie se nourrit de tolérance et d'observation, et parce que lui, il a payé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1.